VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est midi à Libreville au Gabon. En Libye, les forces du gouvernement d'Union nationale progressaient aujourd'hui dans la ville de Sirte, puis défaient les dernières poches de résistance des djihadistes du groupe État islamique qui vendent chèrement leur peau. Les djihadistes sont désormais acculés dans un secteur de moins de 2 km dans la ville qui était devenu leur bastion en Libye, ont affirmé aujourd'hui les forces du GNA. Un millier de soldats les encerclent après avoir lancé dimanche l'ultime bataille pour conquérir totalement Sirte, située sur la côte méditerranéenne à environ 450 km à l'est de Tripoli. Les Gabonais retiennent leur souffle avant la journée de mardi où les résultats officiels de la présidentielle à un tour de samedi doivent être annoncés par le ministre de l'Intérieur, Pacome Moubele Boubeya. L'attentisme et l'inquiétude dominaient ce lundi au Gabon après que l'opposant Jean Ping s'est proclamé élu face au chef de l'État sortant Ali Bongo Ondimba, dont le camp assure qu'il a remporté le scrutin. Après deux jours pendant lesquels Libreville avait un aspect de ville morte, avec des habitants cloîtrés chez eux, la capitale a retrouvé aujourd'hui, selon l'AFP, une activité à peu près normale, même si certains commerces restaient fermés. Aucun dispositif des forces de sécurité n'était visible dans la ville. On fait le point tout de suite avec l'envoyé spécial de VOA Afrique, Idriss Fall.
C'est une guerre de communiqués qui se poursuit hier dimanche devant un parterre de militants. L'opposant Jean Ping a clamé sa victoire sans pour autant s'autoproclamer président du Gabon.
À tous ceux qui ont fait un choix autre que celui de ma personne, je voudrais les rassurer qu'il n'y aura aucune chasse aux sorcières. Je serai le président de tous les Gabonais. C'est dans l'unité et la concorde que nous célébrerons cette belle victoire.
Pour se faire l'écho, ces militants enflammés ont entonné en chœur Jean Ping, président. Quelques heures après, le PDG au pouvoir a rassemblé ses militants à quelques encablures de la résidence de M. Ping. Le président sortant Ali Bongo a eu un discours plutôt modéré, appelant au calme, assurant toute sa confiance en attendant les résultats. Les militants du PDG sont aussi certains de la victoire de leur candidat.
Bien sûr et certain, il va gagner. Ali Bongo, c'est celui qui a le meilleur projet de société. Il a parlé de l'avenir en confiance, alors donc on lui fait confiance.
Les résultats sont attendus au plus tard 72 heures après le scrutin, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain mardi. En attendant, sur le déroulement du scrutin, Falilou Diallo, président du groupe des observateurs africains qui représente les ONG de 12 pays du continent.
Un vote calme qui s'est bien déroulé. Une participation massive. C'est une belle fête pour la démocratie.
Et vous pensez que les résultats, il y a des risques de contestation ou pas?
Bon, nous sommes en Afrique. Hein. Nos démocraties sont très jeunes, sont très fragiles. Donc, il y a toujours les perdants qui contestent. Mais faisons confiance à nos institutions où nous pouvons recourir pour contester les résultats. Il n'y a pas d'élection sans contestation de résultats. C'est la marche pour notre démocratie fragile.
Pour parer au pire, l'Union africaine a dépêché sur place une forte délégation des anciens, dont Sylvestre Ntibantou Gagnan, ancien président du Burundi.
Pour un pays qui a su, pendant toutes ces décennies, sauvegarder la paix et la sécurité, et notre souhait est que les différents protagonistes prennent cette expérience comme venant pour consolider ses acquis.
Est-ce que vous pensez que vous serez entendu?
Nous le souhaitons et nous croyons que tous les acteurs politiques sont d'éminentes personnalités et qui donc ne peuvent pas être insensibles à des préoccupations de ce genre.
Depuis Libreville, Idriss Fall, La Voix de l'Amérique.
Direction la République démocratique du Congo, la feuille de route du dialogue politique congolais est prête avec la fin des travaux préparatoires ce week-end à Kinshasa. Les délégués du pouvoir de l'opposition comme de la société civile ont trouvé des points d'accord de ce forum qui reste toutefois boycotté par une frange importante de l'opposition réunie au sein du rassemblement, une plateforme politique que dirige Étienne Tshisekedi. Gino Riema de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, nous en dit plus.
C'est parti pour un dialogue de 2 semaines, décidé par les différentes parties déléguées au comité préparatoire. La date du 1er septembre a été proposée pour les débuts de travaux du dialogue. Un dialogue qui risque de s'éteindre sans la plus grande plateforme de l'opposition, le rassemblement qui pose encore des conditions. Des conditions qui ont été rappelées même par des opposants qui ont pris part aux travaux Du comité préparatoire, les députés Jean-Lucien Boussa et le chef des délégations de l'opposition dans le comité préparatoire.
Libération effective des prisonniers politiques. L'abandon des poursuites à caractère politique. La réouverture effective de toutes les chaînes de télé et radio fermées. La restitution des biens confisqués.
Et au niveau de la facilitation, on promet de travailler sur les préalables du rassemblement à la majorité présidentielle. On se félicite du déroulement des travaux du comité préparatoire avec l'espoir d'avoir un dialogue qui va dans l'intérêt de tous. Le professeur Néhémie Mouilagna est le directeur de cabinet du chef de l'État.
L'espoir que nous formulons, c'est qu'au 1er septembre, la famille soit rassemblée au grand complet.
Le dialogue va se tenir dans le respect de la résolution 2277 de Nations Unies. Kinshasa, Gino Reima de Top Congo pour VOA Afrique.
L'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan et le Soudan du Sud a débuté dimanche une visite à Khartoum, la capitale soudanaise. Au cours de ce déplacement qui doit s'achever jeudi, Donald Bouff va rencontrer des représentants du gouvernement, de la société civile et des ONG et doit se rendre, selon le département d'État américain, dans l'état frontalier du Nil Bleu, dans le sud du pays en proie à une rébellion armée. La visite de M. Bouff intervient également dans un climat de tension entre Khartoum et son voisin du sud, Juba, l'ancien vice-président sud-soudanais Riek Machar, opposant du président Salva Kiir, se trouve actuellement au Soudan, où il a été hospitalisé la semaine dernière.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le gouvernement nigérian formule de nouvelles propositions pour des pourparlers éventuels sur les otages de Chibok. Chérubin Dorsil.
Dans une déclaration à la presse hier dimanche, le président Muhammadu Buhari s'est dit prêt à laisser Boko Haram choisir un organisme sans but lucratif comme intermédiaire dans toutes les discussions sur la libération d'environ 200 écolières enlevées en 2014 dans le nord-est du Nigeria. M. Buhari avait déjà fait une offre de négociation sur le dossier l'an dernier, mais le groupe extrémiste n'a pas fait de commentaire sur la proposition. L'échec du Nigeria dans la recherche des filles de Chibok a provoqué un tollé au pays et à l'étranger. Souvenez-vous, les critiques du prédécesseur de Buhari, Goodluck Jonathan, avaient déclaré que son gouvernement était trop lent à agir. S'ils ne veulent pas nous parler directement, qu'ils choisissent une ONG reconnue internationalement, a dit le président Buhari en marge d'une conférence au Kenya. Selon le dirigeant nigérian, des négociations pourraient commencer sur un échange de prisonniers si Boko Haram pouvait fournir des preuves à l'ONG que les filles sont toujours sous son contrôle. Des négociations avec Boko Haram seraient les premiers entretiens connus du public entre le gouvernement et les salafistes, dont 7 ans d'insurrection pour créer un État islamique dans le nord du Nigeria ont entraîné la mort d'au moins 15 000 personnes.
La Turquie va continuer de viser les combattants kurdes dans le nord de la Syrie tant qu'ils n'auront pas reculé à l'est de l'Euphrate, a déclaré aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères au 6e jour d'une offensive des forces turques dans le pays voisin. Les YPG, unités de protection du peuple kurde, comme les États-Unis l'ont promis et eux-mêmes l'ont déclaré, doivent repasser à l'est de l'Euphrate dès que possible et tant qu'ils ne le feront pas, ils resteront une cible, a affirmé Mevlut Cavusoglu lors d'une conférence de presse. Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat suicide qui a coûté la vie à 60 personnes aujourd'hui à Aden, dans le sud du Yémen. Une soixantaine de tués dans une opération martyre d'un combattant de l'État islamique contre un centre de recrutement de l'armée à Aden, écrit l'agence AMAC, organe de propagande du groupe djihadiste.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, comparaît aujourd'hui au Sénat pour se défendre personnellement dans son procès en destitution, une ultime intervention avant sa probable éviction. Point final à 13 ans de règne de la gauche dans le plus grand pays d'Amérique latine. Elle aura la parole durant 30 minutes et décidera ensuite si elle accepte ou non les questions des parlementaires qui, dans ce cas, auraient chacun 5 minutes pour s'exprimer. Puis suivront de longs débats et le vote final attendu mardi ou mercredi. Un oui des deux tiers des sénateurs, 54 sur 81. Est requis pour prononcer la destitution qui serait une première dans l'histoire du Brésil. Et puis, la Colombie vit une journée historique ce lundi avec l'entrée en vigueur du premier cessez-le-feu bilatéral et définitif jamais signé entre la guérilla des FARC et le gouvernement, et ce, au bout de 52 ans de conflit armé. Jean-Roger Billon, à ce micro, merci de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité et restez à l'écoute de la radio, les ondes de la Voix de l'Amérique, toute la journée. Merci, au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.